On va continuer dans ce qu'on a vu hier. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais répéter un peu ce qu'on a vu brièvement. On a vu hier un peu, on a parlé qui est ce Dieu que nous connaissons, qui est ce Dieu qui s'est révélé à nous. Donc un Dieu qui est omniprésent, qui est éternel, le Dieu qui a causé, qui est à l'origine de toute création. Le Dieu qui s'est révélé comme être humain pour prendre une relation avec nous, pour faire un pont entre nous et Dieu. Et si qu'il va revenir pour nous prendre avec lui, pour qu'on va passer l'éternité avec lui. Et qu'en fait, cette relation, elle nous remplit d'une joie qui est une joie complète, parce qu'elle est très profonde et c'est avec justement ce Dieu qu'on a une relation. Et donc, en fait, aujourd'hui, je voulais continuer en regardant quel sera le fruit dans notre vie privée, notre vie personnelle, de cette relation qu'on a avec Dieu. Et aussi, demain, on va voir quel est le fruit pour notre communion fraternelle, et donc dans le groupe. Et... pour cela, justement, on va donc continuer dans la première lettre de Jean. Hier, on avait vu les quatre premiers versets de la première lettre de Jean. On va continuer à lire à partir du verset 5. Je vais lire à partir du verset 5. Le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, qui est juste. Il est lui-même l'expiation pour nos péchés, non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ainsi, nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Donc, en fait, si Jean nous a parlé de la communion qu'on peut avoir avec Dieu, il continue directement avec un message qui lui semble donc très très important. C'est en fait de nous dire qu'est-ce qui peut mettre en danger cette relation qu'on a avec Dieu. Avec Dieu. Et il faut, en lisant ce texte, il faut toujours garder en fait le temps de Jésus, de Jean, de voir qu'est-ce qu'il voulait nous dire. En fait, il voulait nous encourager, c'est pas pour nous accuser, mais c'est en fait pour nous encourager à garder cette relation qui nous remplit de joie, qui est quand même la plus belle chose qu'on puisse avoir. Il veut pas que nous allons la perdre. C'est en fait justement pour ça qu'il nous dit ce message. Il commence son message en disant Dieu est lumière. C'est quelque chose que c'est pas Jean qui a inventé, c'est pas lui qui nous dit, c'est Jésus qui a dit qu'il est lumière. Donc ça nous indique déjà que c'est la vérité. Et il y a certainement plein de choses qu'on puisse trouver en commun entre la lumière et Dieu. Donc je me suis posé un peu la question, comment, pourquoi on puisse dire Dieu est lumière. Bon, d'un côté, la lumière, le soleil, c'est la source de la vie. En fait, toutes les plantes et même nous, on vit grâce au soleil. Je sais ça très bien parce que je viens du Luxembourg, du Nord. Le Grand Nord, c'est près des ch'tis, donc il n'y a pas beaucoup de soleil. Et je remarque quand même la différence si on vient à Nice, d'avoir un peu de soleil, ça fait du bien, ça donne de la vitalité. Mais je crois qu'en fait, si Jean le dit ceci, que Dieu est lumière, il y a une autre raison pourquoi il dit. En fait, c'est plutôt par opposition aux ténèbres. Il dit lui-même, dans le même verset encore, que dans cette lumière, il n'y a en lui, il n'y a pas de ténèbres. Donc c'est un peu l'opposition lumière-ténèbres, lumière-obscurité. En fait, la lumière, elle est présente ou elle est absente. La lumière, elle s'infiltre vraiment partout. Et dès qu'elle est présente, la moindre lumière qui est présente, on ne peut plus dire qu'il fait noir. Donc, d'une certaine façon, on pourrait dire la lumière, elle est pure. Mais aussi, on peut dire la lumière, scientifiquement, on peut encore la définir comme quelque chose, elle existe. Bon, c'est un peu difficile, scientifiquement, de définir la lumière. Mais soit c'est une onde qui transporte l'énergie, soit c'est des petites particules. C'est un peu un problème dans la science, ils ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est. Parce que ça ne respecte ni à 100% les règles d'une onde. La lumière, elle est attirée par la gravité des planètes. Donc elle est déviée dans son cours dans l'univers, en traversant l'univers du Soleil jusqu'à la Terre. La lumière, elle est déviée. D'un autre côté, c'est pas vraiment une particule, parce que ce serait vraiment une particule qui se propage à la vitesse de la lumière, elle aurait une énergie infinie, sans la loi de la relativité d'Einstein. Mais n'importe ce que c'est un quelque chose, elle existe. Tandis que l'obscurité, comment on peut définir l'obscurité? C'est l'absence de la lumière. L'obscurité, c'est un rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière. En fait, c'est ça que Jean veut nous montrer ici. En fait, il continue dans le prochain verset que si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Nous ne faisons pas la vérité. C'est impossible. C'est impossible d'être à l'ombre et d'être à la lumière en même temps. Donc c'est impossible d'avoir la communion, la vraie relation avec Dieu et en même temps d'être constamment dans ce qu'on appelle les ténèbres. Donc en fait, si la Bible parle des ténèbres, elle parle des péchés. Le verbe qu'il a utilisé ici, « marchions », nous indique en fait qu'il parle de quelque chose qui est actif. Donc, en fait, là, il rentre dans tout un détail, pas un détail, mais un débat qui est difficile à expliquer entre les péchés qui sont présents tout le temps, parce qu'on a une nature de péché, et on fait quand même une différence entre cette nature de péché et d'accepter de pécher constamment, de tolérer le péché dans notre vie. Donc, en utilisant ce verbe marchiant, déjà, marcher, c'est quelque chose d'actif, c'est quelque chose que je fais consciemment, que je veux faire, je dois mettre un pied devant l'autre pour le faire. Et aussi, la forme grammaticale de le mettre dans le présent, c'est-à-dire quelque chose qui continue. Il veut exprimer quelque chose qui continue et que nous acceptons que ça continue. Donc, en fait, il parle d'un mode de vie. Du mode de vie où on tolère le péché constamment dans notre vie. Il nous dit justement, voilà un danger pour notre relation avec Dieu. Donc juste pour expliquer brièvement cette différence du fait qu'on a une nature de péché, il nous dit dans les prochains versets, au verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Il accepte, oui, c'est impossible qu'on n'a pas de péché du tout. Ouais. C'est pas de ça qu'il parle. Il dit même au verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de lui, donc de Jésus, un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Si je dis que je n'ai pas de péché du tout, je dis en fait que Jésus est un menteur, parce que d'un côté, Jésus a dit que c'est impossible qu'on va se purifier nous-mêmes, et d'un autre côté, je détruis aussi son œuvre qu'il a fait à la croix, parce qu'alors, ça n'aurait pas nécessaire qu'il est mort pour nos péchés. Mais il parle du fait d'accepter, de tolérer les péchés. Mais donc, comment c'est possible de mener une vie avec avec Dieu, d'avoir une relation avec lui, en même temps d'avoir cette nature, cette tendance de péché. Il nous indique dans le verset 7 que c'est possible. Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, donc même avec notre nature de péché, il est possible de quand même vivre cette relation avec Dieu. De marcher avec lui, c'est de nouveau, en fait, le verbe marcher et la forme au présent, donc quelque chose d'actif, quelque chose qui se passe continuellement, qui est un mode de vie. Et il dit, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Au verset 9, il continue, si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. Donc en fait, il dit que c'est possible, même avec notre nature de péché, de vivre une vie avec Dieu, avec cette relation, si tout simplement nous acceptons que nous avons cette nature de pécheur, si nous le reconnaissons. Le verbe « reconnaître » ici, le mot grec qui a été utilisé veut dire « homologos », le mot français qui divise ces mots, c'est « homologue », donc pareil. C'est en fait, c'est de dire la même chose que Dieu, donc de dire « Dieu est juste, moi je suis un pécheur, j'ai besoin d'un sauveur ». Si on a cette attitude-là, il dit que son sang, il va nous purifier. Le sang, donc, c'est quelque chose qui s'est passé une seule fois, c'est une référence à la croix. C'est pas un rituel, c'est pas le baptême, c'est pas quelque chose qu'il faut répéter de nouveau. C'est le sang qui nous purifie. Et le verbe purifier est aussi au présent, donc, il indique aussi que c'est une action continue de nouveau. Donc, en fait, nous avons besoin d'une purification continue parce qu'on a une nature de pécheur. Et le fait de le reconnaître nous rend possible, de même avec notre chair qu'on a, de vivre cette relation avec Dieu. Et il continue après, dans le chapitre 2, de dire, même si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur. Donc il donne même la solution, comment ça va se passer. Si on accepte et on dit qu'on a des péchés, on a un défenseur auprès du Père, Jésus, qui est un défenseur juste. Donc il ne dit pas qu'on n'a pas péché ou que ce n'est pas si grave que ça. Il dit oui, il y a des fautes, mais j'ai déjà payé la dette. Jésus a payé la dette, donc c'est d'accord. Et en fait, Spurgeon a dit une fois, si je n'ai pas la foi qui est capable de me purifier en continu, j'ai pas la foi qui sera capable de me ressusciter des morts non plus. Ouais, il faut justement avoir cette foi, cette confiance que les péchés occasionnels qui se produisent sont purifiés en continu si on garde cette relation justement, si on le reconnaît. Mais c'est pas de ça que j'en veux nous parler. J'en veux nous parler en fait du problème si on tolère les péchés, si on a un mode de vie dans les ténèbres. Et si on l'accepte, ça c'est quelque chose qui n'est en fait pas conforme ou pas en relation, pas normal pour une vie de chrétien en relation avec Dieu. Un autre commentateur, David Guzik a dit une fois, être chrétien ne veut pas dire qu'on ne pêche plus, mais ça veut dire qu'on a plus le même plaisir qu'on avait auparavant de commettre les péchés. On ne va jamais pouvoir pécher avec le même plaisir. Donc en fait, si Jean affirme cette possibilité qu'on dit qu'on a la communion avec Dieu, mais quand même on vit dans un mode de vie de péché, on tolère ça, s'il dit aussi franchement, et si c'est la première chose qu'il nous dit, ça veut dire que ça a dû être un problème fréquent dans la société où il était. Et je crois que c'est toujours un grand risque, même pour nous, nos jours. Il faut se rendre compte, en fait, qu'il ne parle pas des non-chrétiens qui peut-être prétendent d'être des chrétiens. Il parle des chrétiens, donc il parle de nous. C'est un risque pour nous tous qu'on accepte les petites choses, qui deviennent des grandes choses, de plus en plus, et que, en fait, il nous dit, c'est impossible de vivre cette communion avec Dieu et en même temps de mener cette vie. Donc, ce qu'on perd, c'est justement cette relation avec Dieu, cette relation dont on a parlé hier, cette relation qui nous remplit de joie, notre premier amour qu'on avait. Faut différencier ça du salut. On va pas perdre notre salut, mais on va perdre cette relation, on va perdre la joie. Et aussi, toute la ferveur, la force de vivre notre vie chrétienne. Et en fait, si on revient à cet état, ou si on est toujours à cet état, on peut nous comparer un peu à des enfants, point de vue maturité chrétienne. Le deuxième chapitre, il commence par mes enfants. Donc, il s'adresse à des enfants d'une certaine manière, donc il parle de gens qui ne sont pas matures. Et le but est, mes enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Donc il parle de la maturité chrétienne avec le but qu'ils grandissent. Et le but de grandir dans notre foi chrétienne, c'est de ne plus tolérer les péchés, qui est un signe de maturité en fait. En fait, c'est justement ça le but que Dieu a pour nous. Que nous allons accepter ses commandements, vivre selon ses commandements, et donc de devenir aussi de plus en plus semblable à lui, de le connaître mieux, finalement devenir à ce qu'il a écrit au verset 3 ici, « À ceci nous savons que nous le connaissions si nous gardons ses commandements. » Ce verbe « connaître » qu'il a employé là, ce n'est pas en fait une connaissance intellectuelle. Il ne veut pas dire « si je connais Jésus, donc j'ai entendu de Jésus parler », ou « oui, je crois qu'il est mort à la croix ». Non, il parle d'une connaissance plus profonde, une relation intime qu'on a avec Dieu de nouveau. Donc en fait, si on arrive au point de garder ses commandements, de les comprendre pourquoi il les a instaurés, c'est quoi le but, on va vraiment le connaître, on va vraiment avoir une relation intime avec lui. En effet, j'essaie de comparer ça un peu avec la psychologie. On a trouvé dans la psychologie qu'il y a en fait deux façons de faire apprendre aux enfants des règles. Une façon est de les intimider par l'autorité. On peut essayer qu'ils acceptent quelques règles. Mais en fait, par ce moyen-là, ils ne vont jamais vraiment accepter les règles. Ils vont juste les garder à cause de l'autorité. Et dès que l'autorité n'est plus là, ils vont se régaler pour faire ce qu'ils veulent. Une autre façon, c'est de faire passer les règles par une relation d'amour. C'est-à-dire d'abord créer une relation avec l'enfant et par après, il va accepter les règles parce qu'il ne veut justement pas blesser l'autre personne et donc il ne veut pas détruire cette relation. Et donc en fait, c'est justement ça que Dieu il fait avec nous. On peut comparer un peu notre relation avec Dieu comme la relation parent-enfant dans l'éducation. Dieu a commencé à d'abord établir une relation avec nous, comme on a vu hier, une relation d'amour. Dans le chapitre 4, verset 19, il nous dit « Quant à nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier ». Donc c'est comme ça que Jésus ou Dieu il a commencé à nous faire apprendre ses commandements. Il nous a aimés d'abord. Il nous a aimés avant qu'on ait respecté ses commandements. Il nous a aimés même pendant les périodes où on n'a pas gardé ses commandements. Donc il nous a d'abord donné cette relation d'amour. Dieu savait en fait très bien que les commandements de l'Ancien Testament, tout simplement le commandement, ne va pas nous purifier. Même au contraire, ça risque de produire plus de péchés. Parce qu'on voit la limite, par notre nature, on est tenté à la dépasser, la limite. Le but des commandements dans l'Ancien Testament, c'était pas de nous purifier nous-mêmes, mais en fait, c'était pour qu'on voit le besoin d'avoir un sauveur. C'est marqué dans la lettre aux Galatiens, chapitre 3, verset 24. Ainsi, la loi a été notre surveillant jusqu'au Christ, pour que nous soyons justifiés en vertu de la foi. Donc, en fait, la loi, elle n'a pas, c'était pas le but de nous montrer nos péchés, mais de nous montrer justement notre nature de pécheur. Et de nous faire rentrer dans cette relation avec Dieu. Dès qu'on a vécu cette relation avec Jésus, dès qu'on est rempli avec cette joie complète, on essaye de garder les commandements par amour envers Jésus. Parce qu'on ne veut pas perdre cette relation. Et c'est justement ça que Jean nous a dit. Si vous allez pécher ou tolérer les péchés, ce que vous allez perdre, c'est cette communion. Donc la clé, en fait, pour ne pas vivre un mode de vie dans les péchés, c'est de garder la relation avec Dieu. Et en même temps, si on garde les commandements, on va arriver à un point où on va les comprendre. On va comprendre pourquoi Dieu a instauré ces commandements. Et du moment que j'accepte donc les commandements, que ça vient, devient quelque chose de moi-même, parce que je les comprends, je change mon attitude et ça me rend vraiment libre. En fait, ouais, c'est ça le but de l'éducation qu'on fait avec nos enfants. D'abord, on établit cette relation d'amour, puis on fait l'éducation, on lit les règles en avance, comme Dieu l'a fait dans l'Ancien Testament, et on veut qu'un jour, ils comprennent pourquoi on a défini ces règles, et qu'ils deviennent en fait capables de vivre une vie selon ces règles, indépendamment si je les contrôle ou ne les contrôle pas, donc qu'ils comprennent vraiment le sens de ces règles. Donc, le but est de changer notre point de vue sur ces règles. Est-ce qu'on les voit toujours, les commandements, comme une punition, tout ce qui est interdit? Ou est-ce qu'on les voit comme quelque chose qui nous libère, qui nous donne en fait une sécurité? Ils ont fait une expérience très intéressante dans la psychologie, avec un aire de jeu. En fait, ils avaient fait deux aires de jeu, un sans clôture autour, et l'autre avec une clôture autour. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que les enfants qui ont joué sur un aire de jeu sans clôture, ils se rassemblaient tous sur un point. Et les autres, en fait, qui jouaient sur un aire de jeu avec une clôture, ils exploraient vraiment toute la surface de cet aire de jeu. Ils n'ont pas joué juste avec les jouets qui avaient au milieu, mais ils sont passés dans tous les coins de la clôture. Et l'explication est, en fait, que cette clôture, elle a donné une certaine sécurité, elle a donné des limites et finalement aussi une liberté de bouger aux enfants. Et je crois que c'est juste pour ça qu'il change si on comprend les commandements et on dit ouais, je les garde parce que je les comprends moi-même, ça rend ma relation plus intime avec Jésus. Comme c'est marqué dans l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 31 et 32. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc en fait, si Dieu nous dit que la vérité va nous rendre libre, il dit qu'il faut d'abord comprendre cette vérité. Et pour la comprendre, il faut demeurer dans la parole, il faut garder les commandements. Donc si on garde les commandements, si on comprend, si on connaît la vérité, c'est là qu'on sera libre. Donc en fait, Dieu fait justement avec nous ce qu'il faudra faire dans une éducation. D'abord, il nous offre une relation d'amour, comme les parents ils offrent aux enfants. Puis, il fait une éducation. La Bible dit clairement que si Dieu nous aime, il va nous éduquer. Et le but est en fait qu'on arrive à comprendre ces commandements, de savoir que c'est vraiment la limite de la vie. Dieu a créé la vie, il a aussi créé les lois de la vie, les limites de la vie. Et qu'on va comprendre que c'est ça le chemin, la vérité et la vie. C'est voilà qu'on va vraiment connaître Dieu, qu'on va avoir une relation intime avec lui et qu'on pourra vivre cette joie complète que cette relation peut nous donner. Donc en fait, la clé pour vivre cette vie, c'est de garder la relation. Et le fait de garder la relation va rendre cette relation intime. Et ce que Jean voulait nous dire ici, il voulait nous avertir de ne pas nous laisser tromper par l'ennemi. L'ennemi qui veut, en fait, nous éloigner de Dieu, qui le fait subtilement, lentement, et on commence à accepter des choses qu'on ne devrait pas accepter. Et finalement, il nous vole cette joie, il nous vole cette relation qu'on a. Et si c'est un problème qui est aussi fréquent, ça veut dire qu'on se laisse trop facilement prendre cette joie, qu'on se parle pas vraiment avec assez de ferveur et qu'on recherche pas avec assez d'énergie cette joie et cette relation qui va nous aider à vivre cette vie. Donc je veux en fait vous encourager à ne pas vous laisser prendre cette joie, cette relation que Dieu nous a offerte, et qu'on est vraiment attentif à tout ce que l'ennemi veut mettre entre nous et Dieu.